Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission, c'est Allô la planète, une fois de plus pour parler avec vous tous qui êtes éparpillés de par le vaste monde, qui allez le voir, qui en revenez, qui nous le racontez. Pour participer à l'émission, bien sûr, vous me laissez un petit message sur la page Facebook d'Allô la planète et sur le blog. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement de Tokyo. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité qui est là en studio et on va faire toute l'émission avec lui.
Allô la planète, avec Chapka.
Et cet invité, c'est Gaspard Walter. Salut mon cher. Salut. Gaspard, qui est un habitué de l'émission depuis des années. Gaspard Walter, quand il passe à Paris, il passe nous voir. Quand il passe quelque part dans le monde, il nous appelle. T'arrives de Tokyo ?
J'arrive de Thaïlande.
Voilà, toujours pour me contrer. T'arrives de Thaïlande parce que... Non, mais t'étais à Tokyo.
J'étais à Tokyo, je suis parti en Thaïlande. Et là, je repasse à Paris avant de repartir à Tokyo. C'est compliqué.
Ouais, ils ont des vies problématiques dans Allô la planète. Alors, on va rappeler avant d'en venir à Tokyo et à la Thaïlande qui tu es. Gaspard Walter, quel âge ?
J'ai 35 ans.
Ah ouais, quand même.
Ouais, quand même. Ouais,
tu sais que t'as gardé cet aspect juvénile.
Il paraît, ouais. Ouais, il ouais. Paraît, c'est le voyage.
35 ans. J'ai vu que tu voyages depuis 15 ans.
Ça fait même un peu plus que ça.
Ça fait 15 ans.
Ouais. Le premier voyage, ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé vers 20 ans? T'étais quoi?
Je pense qu'au début, j'avais juste aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et c'était un peu une fuite et je laissais les choses derrière moi. Et puis au fur et à mesure des voyages, c'est devenu un métier.
Au départ, tu partais comme ça.
Au départ,
tout le monde,
je partais comme ça. Ouais. Ouais, ouais.
Et le côté photographe de la vie, c'est venu comment ?
Parce qu'il y a eu un moment où il a fallu gagner sa vie avec les voyages. Ouais. Moi, j'avais une formation de photographe. Et je me suis dit, il y a peut-être moyen de concilier les deux, la photographie et le voyage.
Ouais, ouais,
bah et ça marche.
Ça marche. Ouais, ça marche pas pour tout le monde.
Hein. Ça marche pas pour tout le monde.
Le truc, c'est quoi pour que ça marche ? Parce que maintenant, t'as envie.
Je pense qu'il faut avoir un projet au-delà de juste de l'envie de pouvoir faire des photos. C'est-à-dire qu'il faut avoir un truc à vendre en plus de juste j'ai des jolies photos.
Et toi, tes photos, tu les qualifierais de comment ?
Sales et abîmées.
Ouais, voilà, c'est des photos sales et abîmées. Oui, c'est vrai. Réelles, moi, je dirais.
Un peu vrai, ouais.
Elles sont retouchées ou pas ?
Elles sont retouchées comme maintenant les photos numériques sont retouchées. C'est-à-dire qu'on a... ton appareil photo, il va te sortir quelque chose d'un peu plat et toi, tu vas forcément remonter un peu les contrastes. L'appareil photo, il a tendance à toujours lisser et ternir les souvenirs et retranscrit pas la force de l'instant. Donc, tu auras tendance à pousser un peu les couleurs, pousser un peu les contrastes sans pour autant partir dans un truc qui serait une interprétation totale.
Tu travailles en numérique ?
Je travaille en numérique, ouais.
Et pourtant, tes photos ont un petit côté argentique, un petit côté, comme tu dis, crade. Pur, ça c'est travaillé, c'est
volontaire. C'est ma volonté de ne photographier que des choses abîmées ou que des choses qui ont un peu de caractère.
C'est peut-être ça que tout à l'heure tu disais, il faut avoir autre chose à vendre que juste faire des photos. En fait, faut, je dis pas à tous les auditeurs qui veulent faire de la photo de faire des photos sales, c'est pas ça l'idée, mais de trouver une personnalité.
C'est ça.
Photo,
et un projet total, c'était l'idée du livre, c'était d'avoir, c'est juste plus que des photos, c'est un objet.
15 ans de voyage, maintenant t'arrives à vivre de tes voyages, bravo.
Ouais.
C'est bien, c'est pas évident. Et alors t'es libre au point de... Alors les auditeurs d'Allô la planète ont suivi l'histoire, mais on va la rappeler. Donc t'étais à Tokyo pour faire ce livre pour les éditions de la Martinière.
C'est ça. Hein.
Ticket to Tokyo. Et puis quand t'as travaillé à Tokyo, t'as fait tes photos, tout ça. Après il faut mettre tout ça en ordre, faut écrire les textes, faut travailler les photos, faut faire la mise en page. Et t'es libre au point de t'être dit, tiens bah je vais aller où pour bosser ?
Oui, alors il y a des petites contraintes, il y a quand même l'idée de se dire...
C'est quoi tes contraintes, toi ?
Je vais aller où pour bosser, c'est-à-dire que je ne me serais pas installé à Dubaï, parce que tout simplement ce ne serait pas dans mon budget, donc il y a quand même une petite contrainte de budget, s'installer dans un pays qui est plutôt... qu'on peut se payer. Mais il y a quand même une certaine liberté, c'est-à-dire, en tout cas, oui, j'avais envie de me poser à un endroit qui était agréable, qui était inspirant, où je savais que je pourrais louer une maison assez agréable.
Pas trop cher.
Pas trop cher, et c'est ce que j'ai fait. Ouais.
Et donc, tu t'es installé en Thaïlande ?
Je me suis installé sur Koh Phangan, en Thaïlande, pendant la mousson, et je me suis vraiment enfermé, et j'ai travaillé pendant 2 mois non-stop.
Ah, mais c'est chouette quand même de quitter Tokyo et de se dire où est-ce que je vais aller pour bosser, pour être tranquille. Bon, bah tiens, je vais prendre la Thaïlande.
Voilà.
Bien, j'aime bien, il fait beau, enfin bon, non, il faisait pas beau.
Il faisait pas beau, mais c'est vrai, ça aurait pu être la Malaisie, ça aurait pu être l'Indonésie, c'était la Thaïlande.
Et c'était où, c'était comment, c'était un petit village?
Alors c'était à Koh Phangan, c'est l'île où se passe la fête de la full moon, on parle tout le temps, mais en fait, qui est très séparée, qui est très divisée comme île, c'est-à-dire le sud, c'est la fête et l'agitation, et le nord, c'est le calme et les salons de yoga et la méditation, et moi j'étais vraiment, la méditation c'est pas mon truc, mais j'étais allé me cacher vraiment au nord. Ce qui fait que quand la mousson est arrivée, route coupée par les montagnes, qu'on commençait à dévaler sur les routes, et vraiment vraiment coupée du monde pendant un mois, avec limite il fallait se déplacer en kayak pour aller faire ses courses quoi.
C'est bien ça.
Ouais.
C'est le kiff. Donc tout ça pour travailler sur le livre, il est fini, il est sorti.
Il est sorti.
Il s'appelle Ticket to Tokyo, c'est une collection que t'as lancée, c'est chez La Martinière, il n'y a pas que Tokyo, hein, il y a Ticket to New York.
Thaïlande, Vietnam, New York.
Ouais. Thaïlande, Vietnam, New York. À chaque fois c'est le même concept, mais là il est, on sent que t'as bossé, il est de mieux en mieux.
Donc les fameuses, aussi, ouais.
Les fameuses photos sales de Gaspard Walter qui sont, ouais, voilà, moi je trouve magnifiques. Et puis les textes aussi qui sont de mieux en mieux, bien torchés. Ouais. Bien écrit. C'est pas un guide, dis-tu, c'est un instantané. Donc ouais. Voilà, c'est vraiment important ça.
Il y a une confusion sur les précédents livres, des fois où les gens disaient je l'ai emmené avec moi en voyage et ça m'a fait un kilo dans mon sac supplémentaire et ça m'a pas forcément aidé pour organiser mon voyage, parce que tout simplement, effectivement, c'est pas un guide, c'est des souvenirs, c'est des bouts d'instants, c'est essayer de résumer un lieu en 300 pages autant que possible. Voilà. Et c'est peut-être des conseils des fois, mais c'est pas un guide.
Et c'est volontairement bordélique.
C'est volontairement bordélique. C'est-à-dire que c'est un livre que je conseille de ne pas commencer à la première page pour finir à la dernière, ouais. Mais de le feuilleter, d'y revenir.
C'est comment les Américains et les Anglais appellent ça? Ils appellent ça un coffee table book.
C'est exactement ouais, ça, c'est coffee ça, table book.
Ouais, c'est le livre qu'on a sur la table du salon voilà. Qui est là.
Et qu'on passera un mois à lire.
Ouais, voilà, on le feuillette, on regarde, ah tiens, ça j'avais pas vu, et puis un petit texte.
Et puis les invités ouais. Passent, elles feuillettent aussi. C'est un concept qu'on n'a pas tellement en France. Et, j'aimais bien.
Les nuits inversées de Tokyo. Quand tu trouves des bonnes formules dans les textes sont importants. Quand tu parles de Tokyo, tu dis un ciel de charbon et des trottoirs constellés d'étoiles.
C'est-à-dire que Tokyo, c'est, je l'avais dit la dernière fois, c'est une ville un peu triste, c'est une ville un peu grise. C'est dur à capturer la journée. Par contre, la nuit tombe. Non seulement les immeubles se parent de lumière néon sur des kilomètres, mais tous les habitants sortent leur téléphone portable et on marche vraiment au milieu d'une nuée, une constellation de lumière.
Ah, c'est
parce
ça.
Qu'ils ont ils ont tous les yeux rivés sur leur portable. Et on traverse ça, et en fait, ce qui fait que le trottoir est bien plus lumineux que le ciel qui, lui, est entièrement noir.
C'est ça, les étoiles. C'est ça. C'est les écrans des téléphones.
Centaines de visages fantomatiques qui passent comme ça dans la nuit, dans les rues de Tokyo.
À ce point-là.
Ouais.
Non, c'est fou parce que ici, à Paris, par exemple, tout le monde en a, mais j'ai jamais noté ça. Ouais. Donc vraiment, là. D'accord. Des restaurants minuscules de homoïdes. C'est quoi homoïdes?
Homoïdes et Yokosho, c'est le vrai nom de la rue, qui est aussi très poétiquement baptisé Peace Alley.
Ouais.
Et c'est une rue minuscule coincée dans Shinjuku, qui est vraiment le quartier principal le plus important de Tokyo. Et c'est une rue qui a su rester traditionnelle, avec des restaurants peut-être avec 2, 3, 4 places. Donc on y va si les habitués ont pas pris toute la place. Et on y sert beaucoup de bière, on y sert beaucoup de grillades, puis on y sert aussi 2-3 trucs un peu bizarres.
Comme installé sur une rondelle de citron, un crapaud vivant à demi disséqué cligne des yeux, fixe le cuisinier qui l'assaisonne.
Alors ça, c'est une spécialité d'un de ces restaurants où effectivement c'est le sushi de crapaud.
Ouais.
En fait, il est préparé de façon à ce que on le coupe en deux, et donc tu manges une partie du crapaud tandis que l'autre partie est encore vivante.
Et donc, il te regarde avec ses grands yeux tristes pendant que tu le manges?
Voilà.
C'est bon, moi?
Ah, je sais pas, j'ai pas été jusque-là.
Pourquoi t'as pris Tokyo, d'ailleurs? T'as choisi Tokyo pour faire ce livre au hasard? Ou il y avait un truc qui t'attirait avec le Japon?
Bah, le choix s'est fait il y a très longtemps. Le choix s'est fait il y a 3 ans, après que j'ai traversé l'Himalaya. Et je crois que je voulais un endroit, après l'Inde, je crois que je voulais un endroit très propre et un peu plus facile que l'Inde. Et je sais pas, du coup Tokyo c'est un peu une évidence. Et puis finalement le livre s'est pas fait tout de suite, 3 ans sont passés. Et donc c'était un livre à terminer. Finalement c'est un livre que j'ai recommencé d'ailleurs, que j'ai repris pratiquement du début. Et puis il y avait une envie, je trouvais que c'était une destination qui collait, en tout cas c'est ce que je pensais, à mon avis j'ai eu raison, qui collait plutôt pas mal à la collection. Et aussi une destination qui pour moi était tout le temps montrée de la même façon. Le Tokyo très clean, forcément toujours moderne. J'avais envie de voir s'il n'y avait pas autre chose là-dessous.
Pourtant, tu cherchais un endroit propre. T'as dit après l'Inde, tu me diras. Bon.
C'est ça.
Ouais.
C'est après l'Inde.
D'ailleurs, après l'Inde, parfois, on se repose en allant à Bangkok, ce qui peut paraître dingue.
Quand
tu connais Bangkok et qui est une fourmi. Bangkok, c'est une fourmilière incroyable. Voilà. Quand t'arrives à Paris, après, c'est morte pleine. Mais quand tu sors d'Inde, t'as l'impression que Bangkok, ça repose.
C'est ça.
Ouais. Donc Tokyo, j'ai bien y croire.
Tokyo, c'était très bien après l'Inde. Ouais.
Est-ce que c'est toujours moderne, Tokyo?
C'est moderne sans être moderne. C'est une modernité dépassée, moi, je trouve. C'est la modernité comme on la voyait dans les années 80. C'est-à-dire que...
Aujourd'hui, qu'est-ce qui est moderne? Ce serait quoi aujourd'hui?
Dubaï, c'est moderne.
Dubaï, ouais.
Mais Tokyo, c'est moderne, mais c'est...
Shanghai, c'est sans doute. Shanghai
c'est moderne dans certains quartiers. Mais Tokyo, c'est une vieille modernité.
Un peu. Et Bangkok, c'est longtemps que je suis pas allé à Bangkok. C'est toujours moderne, Bangkok?
Bangkok, c'est un mix. Et Bangkok, il y a vraiment un combat entre la modernité qui doucement, dévore la tradition.
Mais Tokyo, ils ont réussi à garder ce côté, parce que quand on regarde tes photos, on sait bien qu'il y a ces buildings gigantesques, les plus grandes entreprises du monde qui sont là, dans des trucs en acier, en verre, voilà, très modernes. Et puis en bas, donc, il y a toutes ces ruelles, toutes vieillottes comme ça, mais un peu crado avec de l'eau par terre.
C'est peut-être parce que c'est justement au pied de buildings immenses, on a plus de facilité de cacher des petites choses comme ça, je pense. C'est-à-dire que.
Mais c'est volontaire de leur part, tu crois?
Je pense que c'est nécessaire pour les Tokyoïdes, surtout d'avoir ces endroits où ils peuvent se recueillir un peu et qui leur rappellent un peu ce que pouvait être Tokyo avant et qui apporte une certaine chaleur dans une ville qui n'est pas forcément toujours très, très chaleureuse, en tout cas, ouais. Pas pendant la journée quand tout le monde travaille.
Non, parce que chez nous, tu sais bien, les quartiers d'affaires, les buildings, en bas, on met une nappe de béton et puis il n'y a plus rien et il y a juste des sorties de RER et voilà.
Oui, quoi. Mais après.
Parfois, un malheureux food truck, tu sais pas comment, food truck, là, tu sais pas comment il a eu l'autorisation, il est là.
En Asie, rien n'est simple, quoi.
Ouais, mais nous, il y a une volonté d'assainir le bas des immeubles, des buildings, il y a une volonté à ce que tout soit, voilà, clean, mais il n'y a rien qui dépasse.
Mais de la même
façon, à chaque fois, je me demande si eux, là-bas en Asie, c'est une volonté de laisser la vie en bas. Tu vois,
ouais, il y a ça. Il y a de la même façon quelque chose qui serait impensable à Tokyo et qu'on trouve pourtant partout. Je parlais du quartier de Shinjuku, qui est vraiment un gros quartier d'affaires. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas de domicile à Tokyo, ouais. Et qui pourtant travaillent. Et donc, dans ce quartier d'affaires, le long des immeubles, le soir, arrivent des hommes en costume qui défont leur costume, le plient proprement. Et ils se couchent sur le trottoir.
Ah bon?
Ils ont un petit sac que personne touche pendant la journée. Ils sortent leur couette.
Non.
Et ils mangent là, assis dans un coin au pied d'une énorme banque. Et ils se couchent et le lendemain, ils déplieront leur costume et retourneront au travail.
Non, tu rigoles. Donc, espèce de cadre SDF.
On sait pas où ils travaillent parce qu'en même temps, à Tokyo, dans beaucoup de boulot, il faut porter un costume, même si t'es...
Non, mais c'est donc des gens qui ont un boulot.
Mais c'est des gens qui ont un boulot, mais ils n'ont pas d'appart.
Et pourquoi ils n'ont pas d'appart? C'est trop cher?
Parce que c'est trop cher, parce que il y a une politique sociale autour des appartements qui est un peu étrange. Parce que aussi, ce qu'on m'a souvent dit à Tokyo, il y a aussi beaucoup de Tokyoïdes qui habitent dans les cybercafés, parce qu'en fait, ils travaillent tellement que, de toute façon, ils passeraient très peu de temps chez eux, et que donc, du coup, l'idée d'avoir un chez-soi n'est pas forcément toujours obligatoire.
C'est quand même fou, quoi, de façon d'être. Ils vivent dans les cybercafés, c'est-à-dire que c'est pas cher de louer un espace dans un cybercafé.
Voilà, c'est un petit box, il y a un ordinateur, il y a un tout petit canapé, tu t'installes là, tu prends une douche, puis le lendemain, tu retournes au travail.
C'est fou.
Ouais.
Mais ils aiment ça, hein. Ils se rebellent pas, parce que, vu côté occidental, tu dirais, mais...
Bah non, non, ça nous rendrait fou, mais... Je pense qu'il y a un sens communautaire qui est pas le même. Ouais. Il y a une idée qu'on peut vivre avec les autres aussi.
Est-ce qu'il n'y a pas cette idée du sacrifice?
Alors, je pense que c'est une idée qui existe aussi beaucoup chez les Japonais. Mais, je sais pas, c'est une façon qui est tellement éloignée, c'est une façon de voir les choses qui est tellement éloignée de la nôtre, qu'en fait, on peut qu'en être témoin sans forcément comprendre d'où ça vient, pourquoi. Alors, on regarde ça, quoi.
Ouais. Moi, j'avais lu un bouquin comme ça où il disait que, comme ils dansent sur un volcan, les Japonais, ils savent que tout ça va se terminer un jour ou l'autre,
voilà.
Du fait des conditions géologiques dans lesquelles est ce pays, qui, on sait qu'un jour ou l'autre, le Japon va disparaître.
Un jour, ça peut trembler, tout
ça peut être
tomber.
Dans 10 000 ans, hein, mais, ou dans 100 ans.
Ça peut être
pas.
Demain.
Ça arrivera. Donc, il y a un côté survie comme ça. On vit tous ensemble. Ouais, comme tu dis, un esprit communautaire beaucoup plus fort que nous. Ouais, quoi.
C'est une fourmilière encore, hein. C'est vraiment une fourmilière, Tokyo.
C'est fou, hein. Ouais. C'est un des rares pays où tu te sens vraiment ailleurs. Tu trouves pas, toi qui as pas mal voyagé?
Alors, je suis d'accord.
Moi, il y a 2-3 pays qui m'ont fait ça. L'Inde. Où t'as l'impression d'arriver sur Neptune. Et le Japon, en fait.
C'est l'endroit où tu te dis, j'ai pas la notice, quoi.
Ouais.
Je connais pas les règles, je comprends pas.
Il y a pas de repère.
Non.
D'ailleurs, tu te trompes, non?
Tu te trompes tout le temps. Ouais, en temps, voyager, c'est se tromper. Ouais. Mais oui, tu fais des erreurs tout le temps.
Oui, parfois, moi, j'en ai raconté. J'ai fait des voyages, par exemple, en Inde, où j'ai dû aller 10 fois de suite en Inde. Alors, j'étais tout content, je racontais à la radio, je voyais une histoire. Alors, je racontais l'histoire, et je me rendais compte, la fois d'après, en revenant, que je m'étais complètement planté. Et il faut corriger tout le temps, ouais. Et Tokyo, c'est un peu ça, tu
crois? Tokyo, c'est un peu ça aussi, ouais. Nous, on fait des erreurs tout le temps, on passe notre temps à s'excuser. Je pense qu'à mon avis, on s'éloigne de la politesse tout le temps, je pense que.
Ouais, on fait des bourdes.
On fait des bourdes à longueur de journée,
ouais, mais c'est comme dur. Ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Avant de poursuivre dans le bouquin, alors il est arrivé avec des tas de petits trucs. Parce que à Tokyo, ils mangent, enfin au Japon, ils mangent que des trucs bizarres. Alors c'est quoi tout ça? C'est des machins que t'achètes dans la rue?
C'est des machins que t'achètes à l'épicerie du coin. Il y a des choses qui doivent être très bonnes, il y a des choses qui doivent être moins bonnes.
Alors ça,
chaque fois, je commencerai par la pire.
Ouais, ça me semble être la pire. Alors ça ressemble. À...
Alors ça, on le sert dans les bars avec.
Alors, ça pue.
Ah oui, ça pue.
C'est quoi, tu crois?
Je pense que c'est soit de la moule séchée, soit de l'huître séchée. Et je pense que c'est vraiment épouvantable.
Et toi, t'en manges pas?
Ah bon, si je vais en manger.
Ouais, ça a pas grand goût. Ouais, je pense que c'est de la moule séchée. Tiens, il y a Fred qui réalise l'émission, qui est là. Fred, mon ami, passe de l'autre côté du studio. Dis-nous ce que tu penses de cette chose. C'est de la gastronomie japonaise.
Non, c'est pas dérangeant, en fait.
C'est pas dérangeant, non, ça fait un peu...
C'est pas grand-chose, hein.
Après, on te dira ce que c'est, tu te diras que c'est pas bon, mais. Alors, est-ce que c'est des moules ou des huîtres? Je dirais que c'est des moules séchées. On va goûter autre chose. Ah, donc, des moules séchées. On mettra des photos sur la. Ça, c'est quoi, ça? Tu crois? C'est rose.
Aucune idée.
Ah, d'accord. Alors, on ouvre le truc rose. Fred. Ah, ouais, non, c'est. Ah, ouais, non, c'est pas bon. T'as vu, après, il y a un petit goût de poisson.
Il y a un petit goût après, quand même.
Hein. Ouais, ouais, bien dégueu. Alors, ça, c'est rose. Oh là 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 là, ça a l'air affreux. Avec du chocolat.
Ah.
Tiens, Fred, tu dois goûter ça. Voilà. Toi aussi, tu dois te sacrifier, Gaspard. Voilà. Donc, c'est rose. Il y a, oh. Bah, il y a Claire qui est avec nous aussi, qui, alors, Claire, qu'est-ce que t'en, alors, c'est du chocolat. Il y a du chocolat.
Alors, je sais pas, là.
Le truc rose, on sait pas, hein. Oui, parce que c'est écrit en japonais. Oh, c'est pas si mauvais, ça.
Non.
Hein, ça rattrape les huîtres séchées ou les boules séchées d'après.
Je suis toujours étonnant de pas savoir ce qu'on mange, quoi, mais.
La nourriture là-bas, c'est bizarre aussi. Tu sais jamais quoi demander, quoi commander, non?
Alors, c'est vraiment un des pays d'Asie où j'ai le mieux mangé. Mais oui, tu passes ton temps à commander sur photo ou à dire moi je veux ça en pointant vers l'assiette de ton voisin ou voilà.
On poursuit dans le livre des réflexions. Les Japonaises, elles aiment les geeks.
Alors ça c'est. C'est-à-dire que c'est ce que m'a dit un type. J'ai croisé ce type dans un bar qui était un bar où vont ceux qui aiment les jeux vidéo, les trucs comme ça, genre jeux vidéo des années 80. Mm. Et je crois que le type se rassurait un peu. C'est-à-dire que le type m'a dit ouais, mais moi je suis au Japon parce que pour moi ça va être plus facile au niveau relationnel. Parce que bon, bah moi je fais pas de sport, j'ai pas de voiture de sport, je suis pas grand, je suis pas comme à m'habiller. Mais les Japonaises elles s'en foutent parce que moi je suis super bon en jeux vidéo et ça les Japonaises. Pour elle, ça marche, c'est ça qui compte.
T'as pas vérifié?
Bah, lui non plus, je crois.
C'est quoi un Virtual Boy dans sa boîte sous blister? Tout ce que je dis est cité du livre de
Un Virtual Boy, donc ce café, à la fois, tu pouvais jouer à des vieilles consoles, mais tu pouvais aussi en acheter. Le Virtual Boy, c'est l'échec le plus cuisant de Nintendo, qui avait, dans les années 90, sorti une espèce de casse virtuelle. Et qui en fait, problème c'est que ça rendait les enfants très malades, donc ça n'a pas marché.
Ça rendait les enfants malades.
Bah ça faisait vomir les gens, donc.
Quoi?
Ça jouait avec l'oreille interne et tout ça. C'était, il y avait des flashs rouges comme ça qui t'arrivaient dans les yeux. Ça n'a pas bien marché. Mais par contre maintenant du coup c'est collector et ça coûte très cher, surtout sous blister et neuf.
C'est quoi le quartier du Golden Guy ou Golden Guy?
Alors Golden Guy.
Et le matin ça sent un peu la pisse.
Ah ça sent carrément la pisse. Donc le Golden Guy c'est peut-être quoi? C'est 4-5 rues minuscules. Et dans ces 4-5 rues, il y a peut-être 150 bars, qui sont vraiment des bars microscopiques, qui ne sont jamais annoncés de l'extérieur. Donc on arrive dans des rues un peu crades, avec des comme ça des rangées de portes anonymes, qu'on pousse en se disant « Bon, qu'est-ce que je vais trouver ?» Les trois quarts du temps, on se fait jeter par la fille. C'est souvent des femmes qui tiennent ça et qui disent « Non, c'est les habitués. » Il y a 3-4 chaises. Et donc le truc du Golden Guy, c'est d'y aller et puis de faire la tournée comme ça le soir. Et forcément, petit quartier, petite rue, beaucoup de bière. Arrivé au matin, il y a quelques épaves et un certain relent dans l'air.
Yushima, c'est quoi Yushima avec des prières calligraphiées?
Alors ça, c'est un autre. Il y a ce encore dans l'esprit geek. Dans les temples japonais, on écrit des prières sur les tablettes qui s'appellent les emas. Normalement, on prie pour ce qu'on veut, mais dans les temples geeks, forcément, on prie pour autre chose. Je sais pas, on prie pour que son jeu préféré sorte plus tôt, pour que la nouvelle console arrive plus tôt. Et dans ce temple-là, ils font aussi des dessins. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un temple, mais il y a beaucoup, beaucoup de filles à poil sur ces petites tablettes de prière.
C'est ce qu'ils veulent.
Je sais pas, c'est aussi une façon de s'exprimer, de mettre en avant ce qu'on sait faire. Elles sont très belles, ces tablettes. Elles sont très, très bien faites.
D'ailleurs, c'est marrant, il y a une histoire de tablette. Alors, je sais pas si c'est au même endroit, où tu regardes les prières comme ça, et puis, raconte l'histoire. Alors, c'est toi qui prie pour Mike.
C'est un des temples, c'est le temple du parc Meiji. C'est un des temples les plus touristiques. Donc, du coup, les touristes font aussi des prières. Je pense qu'ils comprennent pas forcément le principe. Donc, ce qui était assez amusant, c'est que sur les tablettes, ils priaient pour plein de trucs un peu inutiles. Et surtout, ce que j'ai trouvé déjà très drôle, c'est qu'ils priaient Jésus. Maman, je suis sûr que Jésus, il lit pas ses tablettes. À mon avis, il est pas au courant. Et il y avait une tablette où la fille avait marqué, je prie pour mon mari, je prie pour mes enfants, je prie pour tout le monde, mais pas pour Mike. Et ça m'a fait tellement rire. J'aurais voulu que la photo soit dans le livre, mais c'était pas une photo très réussie. Que moi, j'ai pris une tablette où j'ai écrit, moi, je prie pour Mike.
Toi, t'as sauvé Mike.
J'ai sauvé Mike.
Toujours dans le même genre, Nenzu Ninja. C'est un endroit sacré, semble-t-il. Et c'est là où il y a cette phrase que, voilà, je l'ai dit. Nos sanctuaires, nos temples, tu n'as pas besoin d'y croire. Assieds-toi, lis, regarde, attends.
C'est dans ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on voyage dans les endroits qu'on essaie de comprendre et on essaie de voir quelles sont les règles. Et donc il y avait ce temple qui avait une succession comme ça de très beaux portiques rouges comme on trouve au Japon. Et j'ai discuté avec ce vieux monsieur et je vais essayer de lui, je crois que j'ai posé trop de questions, j'ai sans doute dû l'embêter, qui m'a en gros expliqué que la seule façon, en tout cas la façon la plus facile d'assimiler leur temple, c'est de venir, de s'y asseoir, de se détendre. Et qu'il n'y a pas forcément un mode opératoire précis ou pas forcément avoir besoin d'avoir une conviction précise. C'est les temples, mais c'est aussi tout simplement des lieux de vie, des lieux de détente où on vient et on se pose. Et voilà.
Tiens, c'est marrant, encore une référence à l'Inde, parce que c'est ça aussi. En Inde, quand tu vas dans les temples, tu vois des tas de gens qui prient pas, mais qui viennent se reposer.
Et quand j'ai décrit à une jeune fille, alors qu'on visitait un autre temple, je lui ai décrit nos églises, et... elle a eu l'air un peu perturbée, elle m'a dit « Ah non, nous, un truc comme ça, on n'irait pas.
» Il faut que tu racontes les chats. Nene Koya, alors je sais pas si c'est le nom du bar ou du quartier, c'est un endroit où t'arrives, il y a le chat Rasta, le chat Père Noël et le chat mort.
Alors le café était désert, donc les cafés à chats c'est très très populaire au Japon. Moi, forcément j'ai choisi le plus underground, le plus trash. Il est collé à un cimetière. Il est tenu par une dame qui, je pense qu'elle a, elle a plus toute sa tête peut-être, mais très âgée. Et donc tu rentres là-dedans. Déjà d'entrée, ça sent vraiment très très fort la pisse de chat. La bouffe est dégueulasse. Et donc quand t'arrives, elle te fait un show, c'est-à-dire qu'elle commence à habiller ses chats, elle leur met des costumes. Elle est hyper autoritaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a mis un costume, t'as intérêt à prendre une photo parce que sinon elle va te regarder jusqu'à ce que t'aies fini de prendre la photo. Et moi, je passe comme ça 20 minutes dans ce café, dans une ambiance un peu étrange. Et puis, je regarde, les chats, ils sont posés sur une armoire. Et ils regardent un truc, et je sais pas trop ce que c'est. C'est dans une boîte, ils sont tous penchés au-dessus d'une grosse boîte. Et je m'approche, et en fait, dans cette boîte, il y a un chat qui, à mon avis, est mort depuis très longtemps. Avec quelques pétales de fleurs fanées. Il est en décomposition. Je sais pas si les autres chats le regardent en se disant peut-être qu'il est temps qu'on le bouffe. Ou simplement, ils sont en train de se recueillir. Mais ça a l'air de gêner personne. Et du coup, je me dis, ah, c'est donc ça l'odeur aussi dans cette pièce. Et ça, voilà, ça, c'est un truc un peu étonnant. Ça n'existerait pas en France, hein, et là, ça passait tout à fait bien.
Les distributeurs de petites culottes usagées, portées, c'est faux.
C'est faux. Ouais, moi, on m'avait dit...
C'est une légende urbaine.
Alors, c'est non seulement faux, mais j'ai vexé au moins deux Japonais très fort en parlant de ça. Où ils m'ont dit, faut arrêter.
Mais pourtant, il y a des distributeurs de tout.
Il y a des distributeurs de tout. Il y a des distributeurs de bananes, il y a des distributeurs, alors évidemment, de clubs, de bières, de tout. Il y a des distributeurs de fruits de mer, il y a des distributeurs de salades, des distributeurs de tout.
Kitchen Town, avec la nourriture en plastique. Alors ça, c'est de l'art, ou presque. Tout à l'heure, je te demandais comment tu fais pour choisir, et en fait, c'est ça le truc.
C'est ça.
C'est que tous les plats sont reproduits en plastique.
C'est ça. Alors c'était à la base, c'est une spécialité japonaise, on l'a tous vu à l'entrée des restaurants asiatiques, plus ou moins bien fait. Quand c'est bien fait, c'est très bien fait. À la base, c'était fait en cire. Maintenant, de plus en plus, on part vers le silicone et le plastique. Pour chaque aliment, il y a une technique, et on reproduit des hamburgers, des sushis, des omelettes, des glaces, des pintes de bière. comme ça, avec toutes ces techniques.
Et quand vous voyez ces plats qui sont sous plastique en vitrine, c'est donc pas des vrais plats.
C'est donc pas des vrais plats.
C'est du
comme
coup,
me disait le type qui travaillait dans cette boutique, il me disait c'est vraiment c'est l'enfer de travailler ici parce que j'ai faim tout le temps quoi.
Il y a que de la bouffe en plastique.
Il y a que de la bouffe en plastique.
Le fish market, donc le marché à poissons.
Le marché, avec, ouais.
Avec cette belle réflexion de Gaspard qui prend des photos et qui voit, je cite, une moitié de murène vivante dévore une moitié de murène morte.
C'est amusant, c'est un marché qui a appelé à disparaître. Bientôt, ils vont le déplacer. Moi, surtout ce qui m'a amusé dans ce marché, et ce qui, je pense, qui est intéressant, ce qui nous montre la relation qu'on a avec la nourriture en Occident, c'est que donc c'est un marché qui, vers la fermeture, les touristes peuvent y aller. En général, ils viennent de passer 30 minutes ou une heure à manger des sushis dans les restaurants qui sont autour. Mmh. Et en fait, tu te retrouves avec des dizaines et des dizaines de touristes indignés. C'est-à-dire qu'ils regardent et ils disent « c'est horrible, il y a du sang, les poissons sont morts, regarde, ceux-là, ils souffrent. » Bah ouais,
ils viennent les manger.
Tu viens de les manger. C'est comme ça en fait, c'est de là qu'ils viennent. C'est d'abord on les découpe et ensuite tu les manges.
Donc en fait, il y a moins d'hypocrisie que chez nous finalement, parce qu'ils montrent les choses.
Ils montrent les choses.
Tiens, une petite pause bouffe, on va encore goûter un autre truc. Ah bah oui Fred, désolé. Alors ça je sais pas non plus. J'ouvre des petits paquets qui a ramené Gaspard.
Ça je pense que c'est comme les nouilles instantanées, et maintenant en fait ils mangent ça comme des gâteaux apéritifs.
Ah tu crois que c'est de la
nouille? Je pense que c'est ça, ouais.
Tiens, goûte, tiens, Fred,
ouais, c'est ça.
Si t'es obligé, t'es un professionnel, tu vas jusqu'où.
Ouais, c'est pas mal ça.
Ouais, bon, celui-là. Regarde, ça c'est vert, ça.
Après ça, les gâteaux aux patates douces, à mon avis, c'est intéressant aussi.
Ah, ça, ça a l'air horrible.
Mais non, c'est des gâteaux au thé vert avec du chocolat dedans, ça a l'air très bien.
Tiens, un petit gâteau. Ouais, mais c'est moche d'aspect. Tiens.
Oh, par contre, c'est sec. Hein.
Ouais, ça c'est des gâteaux au thé. Non, c'est pas bon.
Ah ouais.
Non, c'est parce que j'ai le goût de la moule séchée de tout à l'heure.
Moule séchée plus noyau poulet, gâteau au thé vert, forcément.
Mais on termine avec...
En fait, c'est ça, c'est la combinaison qui va pas.
Ah ouais, non, mais c'est... Oh, c'est un goût de papier, vieux papier
c'est vrai.
Humide.
C'est un goût de papier.
Qui aurait traîné. Et alors ça, c'est... Tiens, après on arrête. Hein. Ça, c'est quoi, tu crois? Tiens, Fred.
Ah, c'est très étrange, ça. C'est des...
Il fait une tête, Fred.
Des gâteaux grillés à la patate douce.
Je veux pas. Il y a un animal
Je suis sûr que normalement, c'est bon. Mais là, forcément, effectivement.
Oh, si, c'est pas mal.
Ouais.
Si. On va terminer sur une bonne truc. Claire, tu veux goûter la patate douce? Tiens. Pas mal, la patate douce. À propos de trucs étranges comme ça. Ah, si, c'est bon. Le coup des porte-clés avec des animaux vivants, c'est dedans, c'est en Chine ou
c'est en Chine?
C'est en Chine, ouais.
C'est en Chine. Non.
Ils font pas ça, les Japonais.
Non.
Ils ont pas
ils en sont bizarre, pas là.
Quoi d'autre? Ah oui, j'en étais au Fish Market. Le quartier qui ressemble réellement à Blade Runner où il faut aller, c'est Yurakusho. Ouais, c'est vraiment Blade Runner.
Ah, c'est extraordinaire. On parlait justement de ce qui se trouve au pied des tours. Et là, on est le long de la ligne de chemin de fer. On a vraiment l'impression que d'être transporté dans un film de science-fiction. Les immeubles sont complètement bouffés par la rouille. Les climatiseurs se cassent la gueule. Les toits sont tordus. Les cafés ont plus de portes. Et c'est une ambiance géniale. Tout le monde est assis dans la rue sur des cajots.
C'est dans Tokyo.
Et
tu vois, ça c'est dingue.
Ça c'est quelque chose qu'on voit jamais.
Voilà, c'est un truc de fou, c'est qu'il y a ce Tokyo hyper moderne et tu vas tomber sur un truc comme ça. Qui n'est pas spécialement pauvre en fait.
Et en plus, qui n'est pas spécialement, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas un endroit que j'ai été chercher en me disant il faut absolument que je trouve un truc. J'étais dégoté un truc un peu sombre où personne ne va. C'est l'un des points de rendez-vous des hommes d'affaires tokyoïtes à la fin de la journée, quoi.
Le Kawaii Monster Café où tu as eu l'erreur. Tu as commis l'erreur de dire que c'était ton anniversaire ce jour-là.
Ouais. En plus, c'était quand je suis arrivé, c'est-à-dire jet lag, crevé. Premier jour de prise de vue, je me pose et je dis, on était le 12 octobre, et je dis, c'est mon anniversaire. Et là, j'ai déclenché un truc, j'ai rien compris. Les lumières se sont éteintes, il y a une musique qui est partie, je me suis trouvé avec une fille sur mes genoux, on m'a mis un truc sur la tête. Il y a un gâteau qui est passé et qui est reparti parce qu'en fait, pour avoir le droit de le manger, il faut le commander. Donc, il te le montre et il repart. Et en fait, ça dure très peu de temps, t'as vraiment une minute. Où tu dis mais qu'est-ce qui m'arrive, il y a un feu d'artifice et hop c'est terminé, c'est reparti, les filles sont parties et voilà.
Et puis les fameux capsules hôtel.
Alors les fameux capsules hôtel.
T'as passé la nuit.
J'ai passé pas mal de nuits dans les capsules hôtel.
Sarcophage.
Mais pas mal en fait, finalement assez confortable. Dès qu'on passe au-dessus de cette idée de dans un cercueil,
ouais.
On a tout le confort, c'est très propre. Les hommes sont séparés des femmes, donc pour les femmes c'est très pratique, elles n'ont pas l'idée d'être au milieu des types, parce que les Japonais en général quand ils vont à la salle de bain ils sont entièrement nus, donc je pense que ça pourrait être un peu intimidant. Mais c'est pas mal, c'est pas cher, c'est une bonne façon de visiter Tokyo.
Pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est ces hôtels qui ressemblent à des ruches d'abeilles, là où il y a des petits sarcophages les uns au-dessus des autres, et tu montes sur une échelle, tu te glisses dans ton sarcophage, et dedans, t'es dans ton lit, t'as pas de place autour.
Non, tu peux t'asseoir.
Il y a tes écrans de télé dessus, voilà. Il y en a plein des comme ça, plein d'histoires et plein de photos dans le livre de Gaspard Walter qui s'appelle Tokyo, Ticket to Tokyo, chez La Martinière. Il y a un petit truc plus produit dont on n'a pas parlé, c'est le... Alors je sais pas comment ça s'appelle, les petites icônes.
C'est un flashcode.
C'est un flashcode, voilà, il y a un flashcode. Vous cliquez, vous mettez votre smartphone devant, il le repère. Et c'est assez génial à faire. Il vous emmène après dans une vue à 360 degrés.
Et on peut se déplacer dans le lieu qui est montré dans le livre.
Le café à chat dont on parlait tout à l'heure avec le chat mort. Si vous arrivez sur cette page, il y a le petit flash code. Et vous regardez. Et après, vraiment, c'est impressionnant. Tu tournes le...
Vous êtes dedans, vous entendez l'ambiance sonore.
À 360 degrés, au-dessus, en dessous, etc. Donc voilà. Ticket to Tokyo, Gaspard Walter. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Bravo. Continuez comme ça. Alors, tu vois, je l'ai dit, il y a toutes ces petites histoires, tout ça avec des photos. Très beau livre, très bien. Coffee Table Book à mettre avec les autres. Bon voyage, tu repars en Thaïlande.
En Thaïlande avant de partir en Corée.
Je t'appellerai là-bas.
D'accord.
Ça marche. Merci Gaspard.
Merci.
À bientôt. Ah bah voilà, on a fait une émission entière avec Gaspard Walter et avec Ticket to Tokyo. Merci tout le monde, on se retrouve très vite pour un prochain numéro d'Allô la planète. Vous me laissez vos messages sur la page Facebook de l'émission ou sur le blog. Ciao tutti, bonne route.
Allô, c'est Kétan. Vous écoutez CILS-FM, la radio communautaire de la francophonie à Victoria.
Homens, gosto de tudo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos, porque só tem que ser homem.
É.
Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Todo homem que se preza tem que impor respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é um homem de verdade, pois é. Homens, gosto de todo, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos e dos crioulos. Só tem que ser homem. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito homem. Pois é, tem muito homem.
É.
Todo homem que se preza tem que pôr respeito, saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem, ele te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades, serão felizes. Esse é o homem de verdade, esse é o homem de verdade, pois é, é esse, é esse. Esse é o homem de verdade. Ruas, nos bares, à noite, de madrugada, é, eu gosto de todos. Tem muito homem.
aqui.
Mariessa!
Eu não tenho amor.
Mariessa!
Eu sou da Bahia.
Mariessa!
De São Salvador.
Mariessa!
É daí pra cima. Daqui eu não tenho amor, eu sou da Bahia, São Salvador. Eu não sou daqui,
Mariessa.
Eu não tenho amor,
Mariessa.
Eu sou da Bahia,
Mariessa.
De São Salvador,
Mariessa.
O marinheiro, marinho, quem te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem,
marinheiro sol.
Ele vem faceiro,
marinheiro sol.
Todo de branco,
marinheiro sol.
O seu bonezinho,
marinheiro sol.
Bonjour, je m'appelle Madeleine. Et vous écoutez CELS-FM à Victoria.
keep on singing everywhere you go.
Écoutez CIRS FM.
Vamos a gozar esta fiesta porque ya vino y se va. Llorale la pagosa. Que ya la fiesta se va, guayabo no dejará.
A tua vous écoutez CILS FM, l'unique radio communautaire francophone et francophile de Colombie-Britannique.
Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher, vous êtes à l'antenne de CILS FM 107.9, votre seule radio communautaire francophone en Colombie-Britannique.
Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Dans l'escale cette semaine, coup de projecteur sur l'initiative CID, un partenariat mondial pour l'action sur le développement durable et l'économie verte. Un partenariat qui remet chaque année un prix conçu pour encourager les entreprises débutantes les plus prometteuses et novatrices dans les pays émergents et en développement. 15 entreprises ont été primées en 2017, elles recevront un suivi et un accompagnement particulier. Les précisions d'Arab Obala, directeur exécutif de CID, donc promouvoir l'entrepreneuriat pour le développement durable.
D'abord, il est important de savoir d'où vient cette initiative qui a été lancée à l'époque en 2002 à Johannesburg par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le programme des Nations Unies pour le développement et conservation internationale IUCN. Avec un objectif très particulier, c'est de développer des partenariats en soutien aux petites et moyennes entreprises pour effectivement aider à la mise en œuvre du développement durable. Nous avons un certain nombre de critères qui concernent les questions environnementales, sociales et économiques, dans la mesure où ceci est absolument fondamental pour une entreprise. Nous nous concentrons vraiment sur les petites et moyennes, je dirais beaucoup plus les petites, les entreprises qui n'ont, je dirais, presque pas droit à la parole, qu'on ne reconnaît pas beaucoup, qui sont souvent cachées, mais qui ont de très bonnes idées parce qu'elles font face à des problèmes locaux et qui trouvent des solutions avec le matériel qu'elles ont autour d'eux, les ressources disponibles et qui arrivent à trouver des solutions absolument innovantes dans ce domaine-là. D'habitude, on ne les voit pas assez. Nous, ce qu'on cherche, c'est à les faire connaître, puis ensuite à les aider. Pour les aider un petit peu, elles ne demandent pas beaucoup. Nous avons un certain nombre de critères que nous avons diffusés, dans ce cas beaucoup en Afrique, dans 6 pays principalement, et nous avons eu plus de 350 candidatures, et nous avons un système de